Je ne peux pas être compétitif si je ne protège pas mes frontières.
Bien sûr.
Bah, l'immigration est très, est très importante en France. Trop importante en France.
On est intelligents chez nous alors que nous avons 5 millions de chômeurs, alors que nous avons 8 millions de pauvres, alors que nous avons 1,2 million de foyers qui attendent un logement social. Bon sang, occupons-nous d'abord des nôtres.
La gauche est achetée par l'OGM. Par contre, la main. La droite est achetée par la fenêtre, on savait déjà ça. En plus, la gauche en plus. Voilà, merde. Un bon discours politique par deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient plus près possible l'un de l'autre. Française, français, voir deux choses, un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé, j'ai un bon travail. Ça va s'arranger.
Vous avez presque tous les droits. Il y a du chômage. Les gouvernements, ils profitent des jeunes. C'est pas nous qui ont la parole. C'est les banquiers et les politiques. Ils font rien pour nous. Ils nous enlèvent tout.
Personne ne le sait. Pourquoi ? Parce que je pense que si on connaissait ce chiffre, on serait tellement horrifié de voir que les multinationales payent si peu d'impôts.
On les appelle les indignés. Le mouvement a débuté en Espagne. Depuis quelques jours, une cinquantaine de jeunes sont rassemblés pacifiquement place de la Comédie. Plusieurs policiers sont intervenus pour dégager le campement improvisé.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2. Sur la bande FM. Et c'est l'heure du Canu Info, puisqu'il est 19h. Alors, c'est le Canu Info du vendredi avec Pierre et tous mes acolytes en studio à côté.
Donc, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, comme d'habitude, hein, Raphaël, Oriane, Florian. Et ce soir, nous avons aussi deux invités, Dominique et Harlem, qui sont membres du collectif Palestine 69. Et qui vont donc nous parler de la situation des Palestiniens actuellement, aujourd'hui.
Bonjour.
Voilà. Et donc justement, on va commencer par cet entretien. Il y a de la musique là. Ça fait beau, non? Non, plus sérieusement, on va commencer par l'entretien sans musique, parce que... Voilà. Et du coup, je te laisse commencer les questions, Raphaël. Non, c'est moi qui commence les questions. Du coup, on voulait vous demander en premier quelle était la situation actuellement à Gaza. Qu'en était-il des Palestiniens vivant dans la bande de Gaza.
Oui, ben merci de cette question parce que effectivement, on n'en parle plus beaucoup. Hein. Et pourtant, c'est une situation extrêmement préoccupante. Cet été. Tout le monde est au courant, hein. Il y a eu des bombardements massifs, plus de 2000 morts, 500 enfants qui ont été sous les bombardements. Et aujourd'hui, la reconstruction n'existe pas. Il y a eu des promesses de donateurs, l'argent n'arrive pas. Et de toute façon, les portes sont bloquées par Israël. Aujourd'hui, le pays, cette prison à ciel ouvert, est sous blocus. C'est un siège. Et le siège est d'autant plus important aujourd'hui que l'Égypte du général Al-Sisi s'y est mis et bloque le passage de Rafah, a inondé l'ensemble des tunnels. Et aujourd'hui, c'est une population qui vit dans un état extrêmement difficile. Les gens vivent encore chez des amis, dans la famille. Les écoles de l'ONU servent de dortoir. Bon, on est dans une situation extrêmement difficile aujourd'hui.
D'accord. Et est-ce que ce n'est pas d'autant plus difficile depuis les bombardements qui ont eu lieu cet été, qui ont fait des centaines de morts à Gaza? Est-ce que ce n'est pas d'autant plus difficile et comment les populations se remettent finalement de ces assauts de cet été?
De toute façon, imaginez que les enfants, un enfant de 4 ans a déjà subi 2 bombardements. Un enfant de 6 ans a déjà subi 3 bombardements. Donc imaginez au niveau psychologique ce que c'est. Imaginez les pertes des parents, les amputations de la famille. En fait, c'est une situation, donc, de ce point de vue-là, difficile. Mais même sur le plan matériel, tout simplement, c'est les vivres n'arrivent pas. Les secours sont très difficiles. Il y a aujourd'hui l'organisation de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, l'UNRWA, qui gère les camps de réfugiés de Gaza, parce qu'il faut savoir que ce sont majoritairement des réfugiés qui sont dans cette bande de Gaza, qui sont coincés dans cette bande de Gaza, a des difficultés à arriver à faire arriver l'aide humanitaire. Donc même les organisations de l'ONU n'arrivent pas. Et ceci dans une indifférence à peu près générale. Donc merci d'avoir posé cette question.
Et alors on se demandait aussi par rapport à la colonisation en Cisjordanie, est-ce que les Palestiniens arrivent-ils à éviter la colonisation à certains endroits, mais plus sur le plan judiciaire, est-ce qu'ils arrivent à des fins concrètes pour eux en leur faveur ?
Alors, cet autre volet, hein, donc, ça c'est cette fois dans la Cisjordanie. Donc, dans la Cisjordanie, donc, comme vous le dites, la colonisation progresse, mais c'est quotidiennement. Quotidiennement, il y a des colonies qui sont implantées. Quotidiennement, il y a des arbres fruitiers, des oliviers qui sont coupés. En général, donc, il y a une riposte populaire. Il y a des manifestations pacifiques qui sont organisées. Elles sont pacifiques d'un côté, hein, du côté palestinien. Du côté israélien, c'est moins pacifique parce que c'est des balles en caoutchouc, c'est des coups de matraque. Il y a eu 17, je crois, enfin, ou une trentaine de morts dans les manifestations de cet été. Parce que en Cisjordanie aussi, ça a été très une situation déplorable. Alors pour votre question, effectivement, les Palestiniens essayent de faire flèche de tout bois et ils vont dans les tribunaux. Il y a un cas qui existe à Bel Ayn, c'est une petite ville de paysans dont les terres ont été prises par le mur et cette population. D'une part, depuis 2005, fait des manifestations tous les vendredis. Alors, imaginez ce que ça représente comme mobilisation. Tous les vendredis, depuis 2005, ils font des manifestations contre ce mur. Et ils ont été en justice pour finalement, après des années, obtenir une modification du tracé. C'est le seul exemple que je connaisse. Il y a donc... C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Autrement, c'est l'absence de droit, hein, c'est la règle du plus fort.
Et est-ce qu'à Hébron en particulier, la colonisation continue aussi ? Est-ce que la ville est de plus en plus mangée ? Est-ce que le côté palestinien de la ville est de plus en plus mangé par les Israéliens ? Ou est-ce que ça a plutôt tendance à stagner ?
À Hébron, c'est pas particulièrement. La colonisation, là où elle progresse le plus, c'est à Jérusalem-Est. C'est là l'objectif sioniste. L'objectif, c'est de prendre et de déposséder les Palestiniens de Jérusalem, d'en faire leur capitale. Ils veulent faire la capitale d'Israël, et donc contre l'avis du droit international, évidemment. Et ils chassent les Palestiniens donc dans les quartiers de Silouane, dans les quartiers de Sheikh Jarrah. Là il y a une colonisation qui est quotidienne. Les maisons sont détruites, les gens sont vraiment poussés dehors. À Hébron, c'est une provocation continuelle. C'est dans une ville palestinienne de centaines de milliers d'habitants où ils étaient 400, on avait l'habitude de dire 450 colons, maintenant ils sont un millier, qui sont protégés par 5000 soldats. Donc c'est une situation d'occupation, vraiment, l'occupation la plus formelle et la plus difficile.
Et donc, pour un petit rappel, est-ce que vous pouvez nous dire combien y a-t-il de réfugiés palestiniens dans le monde de nos jours ?
Alors voilà, c'est un autre versant. Il y a les Palestiniens qui sont divisés à Gaza. Palestiniens, ils sont en Cisjordanie, donc déjà il y a une fracture parce que Gaza et la Cisjordanie, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de communication entre eux. Et puis il y a les réfugiés qui sont dans, alors il y a les réfugiés qui sont dans en Cisjordanie ou qui sont à Gaza, et il y a les réfugiés qui sont en Jordanie, qui sont en Libye, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Alors, ce sont des réfugiés qui, eux, leur nombre continue parce que, bon, ils sont réfugiés depuis 1948. Je ne sais pas si vous imaginez. En 1948, ils ont été chassés par les armées, la Haganah, les armées d'Israël, qui les ont chassés littéralement du territoire. Et au début, ils vivaient dans des tentes. Maintenant, c'est dans des baraquements, enfin des maisons en parpaing. Et ainsi depuis 1948. Donc, ils ont des enfants. Ensuite, chaque famille élève un étage pour les enfants, et ainsi de suite. Et ça devient des petites villes aux ruelles extrêmement étroites, avec des fils de partout. Enfin, bon, c'est sorte de bidonville, et ils sont 4 à 5 millions donc, de réfugiés qui vivent, comme je le disais, c'est des camps la plupart du temps qui dépendent de l'UNRWA, et c'est depuis 1948, il y a une organisation de l'ONU qui gère les réfugiés palestiniens. C'est invraisemblable, mais c'est comme ça.
D'accord, et vous nous avez parlé donc un petit peu de la condition de vie de ces réfugiés palestiniens. Est-ce que vous pouvez nous dire quel statut ils ont dans les pays où ils se réfugient ?
Oui, c'est intéressant. Il y a eu une conférence qu'on a faite à l'IEP de Lyon là-dessus, justement, sur ce thème, les statuts des différents réfugiés dans les pays arabes. Donc, ils ont, selon le cas, il y a plus ou moins de droits. Au Liban, ils ont, par exemple, ils n'ont pas le droit d'occuper un certain nombre d'emplois qui leur sont interdits. La plupart du temps, ils n'ont pas de passeport, donc ils peuvent pas circuler. Alors, en Jordanie, ils ont le passeport jordanien. En Syrie, aujourd'hui, on peut parler du camp de Yarmouk, qui a été détruit par Bachar el-Assad. Accusé d'avoir pris parti pour la révolution, le régime syrien les a bombardés Yarmouk, et il y a eu des gens qui mouraient de faim à Yarmouk. Je ne sais pas aujourd'hui si l'UNRWA, j'ai vu aujourd'hui un tweet de l'UNRWA qui montrait des photos et qui appelait à aider les gens dans ce camp. Mais bon, la situation est particulièrement dramatique. Donc ça s'ajoute à une situation déjà... Bon, auparavant, ils étaient plutôt dans une situation qui était acceptable. Et puis, bon, suite à la guerre en Syrie, on imagine ce que ça peut faire.
Maintenant, vous voulez un petit peu revenir aussi sur l'actualité plus récente de la Palestine et d'Israël, notamment avec les élections qui se déroulent encore aujourd'hui, parce que voilà, on a vu notamment que malgré le score toujours important de Benjamin Netanyahou, les partis arabes et de la gauche israélienne, notamment Meretz, montaient, on pouvait dire qu'ils montaient quand même, et que qu'ils avaient de plus en plus de sièges. Et donc on peut se demander, justement, la question, c'est est-ce qu'on peut espérer que voilà, le fait que la gauche israélienne et les partis arabes gagnent des voix, ça va changer la situation pour la Palestine.
Alors ces élections, à mon sens, il n'y a pas grand chose à en attendre. La politique d'Israël, et que ce soit la politique du Likoud avec Netanyahou, ou que ce soit la politique de Herzog et de Livni pour le bloc qu'ils ont appelé centre-gauche, ou qui s'appelait le cancioniste. On sait exactement ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent continuer de coloniser. Ils souhaitent mettre le plus de Palestiniens possible dans le minimum d'espace, créer des sortes de bantoustans, hein, comme en Afrique du Sud, d'une part, et puis bombarder Gaza régulièrement, c'est-à-dire contenir les Palestiniens et puis leur rendre la vie impossible de façon à ce qu'ils puissent ils s'en aillent. Donc ça, c'est la politique majoritaire en Israël. Alors, bon, donc, il n'y avait pas grand-chose à attendre de ça. Simplement, on peut dire, effectivement, le point positif, c'est qu'il y a une liste unie de partis, des partis palestiniens d'Israël, ce qu'ils ont appelé la liste unie arabe. En fait, ce sont des Palestiniens de 48. Ce sont ceux qui n'ont pas été chassés ou qui sont restés en 1948 en Israël. C'est les descendants aujourd'hui. Ils représentent à peu près 20% de la population. Et auparavant, ils étaient divisés en 3-4 parties. Et du fait d'une maladresse de Lieberman qui voulait les éliminer, Lieberman a voulu les éliminer en mettant la barre qui était à 2% pour pouvoir avoir un député de la Knesset, il a voulu mettre la barre à 3,5%, puisqu'aucun de ces partis avait 3,5%. Du coup, ils se sont unis. Donc voilà, le point positif, c'est qu'ils se sont unis. Le deuxième point positif, c'est que, alors que ces élections n'intéressent pas les Palestiniens d'Israël, ce coup-ci, ils sont un peu plus intéressés. Et la participation est passée à 70%, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent la troisième force du Parlement.
Est-ce que justement ça va avoir une influence sur la politique d'Israël ?
Franchement, je ne pense pas.
D'accord.
Franchement, je ne pense pas parce que, donc, je vous l'ai dit, la Israël est sur des rails et sa politique est déterminée. Donc, en plus, on a vu l'adhésion, malheureusement, des Israéliens. Alors, heureusement, il y a le Meretz, heureusement, il y a des anticolonialistes, heureusement, il y a les anarchistes contre le mur. Heureusement, il y a des Israéliens qui se battent aux côtés des Palestiniens, qui se battent pour éviter cette colonisation. Maintenant, mais faut le savoir, ils sont archi minoritaires. Donc il y a un consensus de. D'ailleurs, dans cette campagne électorale, alors que nous, on voudrait que la question palestinienne soit abordée, la question palestinienne a été totalement délaissée. Sauf le dernier jour, Netanyahou qui a fait un coup électoral. Autrement, la campagne a porté sur les questions économiques et de logement.
Mais du coup, Netanyahou, il a remporté les élections, il a remporté les législatives partielles, à ce que j'ai bien compris. Est-ce qu'on est sûr qu'il va être réélu Premier ministre, du coup ?
Disons que vraisemblablement, oui. Vraisemblablement, oui. Il va devoir faire des alliances avec d'autres partis d'extrême droite. Mais vraisemblablement, oui.
D'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas d'espoir. On peut s'attendre à ce que la situation entre Palestine et Israël reste la même, qu'il n'y ait pas de projet de deux États.
Alors, disons qu'avec Netanyahou, les choses sont plus claires parce qu'il a dit, on l'a vu déjà, ça fait 6 ans, on l'a déjà vu. Mais avec Herzog et Livni, ça aurait été la même chose. Il y avait le risque qu'avec Herzog et Livni, il y ait des illusions et qu'ils parlent de remettre des négociations, etc. On a vu ce qu'étaient ces négociations. Hein. Là aussi, ça date de 1993, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. On a vu ce qu'on a appelé un processus de paix. En fait, c'est un régressus. On a vu négocier soi-disant Israël et les Palestiniens, mais pendant qu'ils négociaient sur les Israël continuait de coloniser. C'est un peu comme si on discute avec un ami de partager la pizza et qu'on est en train de la manger pendant qu'on discute du partage de la pizza.
Ouais, c'est une image correcte, je pense. D'accord. Bon, du coup, il n'y a pas de processus de paix, quoi. Clairement, on ne peut pas espérer que, même sans parler de deux États, juste une paix.
Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est de peser sur Israël. C'est que Israël soit sanctionné pour les crimes qu'elle fait. Il faut que Israël soit boycotté. C'est en pesant sur Israël qu'on peut changer les choses. Aujourd'hui, il n'y a rien, absolument rien, qui est en cours comme solution de paix avec Israël.
Oui, alors justement, moi aussi, ça m'a amené aussi à me poser la question à partir du droit international. Qu'est-ce qu'il en est du droit international dans tout ça? Je pense particulièrement à l'influence des États-Unis sur Israël, etc. Est-ce que ils ont un rôle à jouer? Est-ce qu'ils ont un rôle utile déjà dans tout ce processus?
Oui, et puis l'adhésion récente aussi de la Palestine à la Cour pénale internationale. Oui, est-ce que ça va avoir un quelconque impact?
Alors, espérons-le. Alors là, c'est quelque chose de très important, et c'est vrai qu'il y a eu ça a mis un peu de temps, mais aujourd'hui, l'autorité palestinienne, enfin plutôt l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, va porter Israël au tribunal, au niveau de la Cour pénale internationale. Là, ça peut effectivement avoir un effet extrêmement important. Donc c'est pas encore fait, parce qu'il y aura des pressions sur l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, il y aura des pressions sur lui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, Israël a volé les taxes. Il a retenu les taxes. Ça va bientôt faire un demi-milliard qui sont retenus de Israël. Forcément, comme c'est l'occupant, c'est lui qui a les ports, c'est lui qui a les aéroports, etc. C'est lui qui ramasse les taxes des produits qui sont achetés par la Palestine, mais il les garde. Il garde les taxes. Donc c'est du vol. Et là, alors quand on parle du droit international, oui, il y a énormément de choses à dire. Le droit international est piétiné par Israël, et depuis des années, avec le soutien des États-Unis, qui, à chaque fois qu'il y a une résolution contraignante, mettent leur veto. Donc le droit aujourd'hui est piétiné par une superpuissance et un État voyou. Mmh. Quant à aujourd'hui, on parle des contradictions entre Obama et Netanyahou. Aujourd'hui, à mon avis, le divorce n'est pas venu entre les USA, qui ont bien besoin, dans le Moyen-Orient, d'un appui militaire que représente... C'est une tête de pont pour eux, c'est un porte-avions. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le divorce soit venu. Sachant que pendant Gaza, cet été, en plus des 3 ou 4 milliards que donnent les USA à Israël tous les ans, ils ont réapprovisionné en armement pour que Israël puisse continuer à bombarder Gaza. Donc, bon, je pense qu'un jour, il y aura des problèmes entre eux. Mais je pense pas que le temps soit venu encore.
D'accord.
Ok. Et alors, du coup, ça nous amène aussi à nous demander comment faire en France, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la cause palestinienne, et qu'est-ce que fait votre collectif aussi, Palestine 69, par rapport à ça.
Ouais, alors, très, très bonne question, parce qu'effectivement, ça, c'est une situation qui appelle à... qui nous interpelle, hein. Il faudrait que les choses soient... c'est important pour la paix du monde, parce que c'est aujourd'hui l'Occident, entre guillemets, qui se dit démocratique, viole le droit international. Donc on voit les conséquences que ça peut avoir. On voit les conséquences qu'a eu l'intervention des USA en Irak en 2003. On voit la conséquence, le trouble que ça fait que un État puisse voler des territoires, puisse piétiner les résolutions de l'ONU, et sans avoir aucune sanction. La France qui est qui est prompte pour des raisons humanitaires à bombarder. Hein, on l'a vu en Libye et on l'a vu aussi en Irak. Pour des prétextes humanitaires, la France elle peut même aller jusqu'à bombarder. Donc là, mais Israël, bon, c'est l'enfant chéri, quoi. L'Israël, malgré la situation humanitaire qui est faite aux Palestiniens, là, on trouve toutes les, on trouve Israël et le petit chéri.
On lui trouve toutes les excuses du
monde. Toutes les excuses du monde, voilà. Alors nous, nous, ce qu'on appelle, on appelle à rejoindre la campagne de boycott, c'est-à-dire qu'il faut que Israël soit isolé sur le plan diplomatique, il faut qu'Israël soit isolé sur le plan économique. Il ne faudra pas avoir de relations, que ce soit commerciales, universitaires. Il faut arrêter les relations avec un État voyou. Donc, c'est la campagne BDS, campagne pacifique qui a été lancée par les Palestiniens, la société civile palestinienne, 170 associations. Et il s'agit de reproduire, on a eu l'exemple, hein, en Afrique du Sud, ça a marché, donc on appelle à reproduire ce qui s'est passé en Afrique du Sud contre l'apartheid. À ce sujet d'ailleurs, voilà, tout de suite quelque chose de concret, il y a une conférence qui est organisée ce vendredi 27 mars, la semaine prochaine, de Farid Essak. C'est un Africain du Sud qui est président de Boycott des Investissements Sanctions BDS Afrique du Sud et qui est un militant anti-apartheid. Donc c'est un universitaire et dans le cadre de la semaine contre l'apartheid israélien, donc il fait une tournée en France et donc le collectif 69 Palestine l'accueille vendredi prochain à 19h à la Bourse du Travail. Je peux faire une deuxième annonce sur la lancée.
Des annonces et aussi, si vous voulez donner des informations sur votre collectif, voilà. Par exemple un site internet ou quoi que ce soit, une adresse.
Alors, le collectif a un site internet, collectif 69 Palestine. Vous trouverez ça certainement très facilement. Donc là, vous avez un agenda et dans l'agenda, il y a un certain nombre d'actions qui sont faites tous les mois pour d'actions, des informations, des films, enfin tout ce qui concerne la Palestine sur le Rhône, vous trouverez ça. On a une réunion mensuelle, c'est tous les premiers mercredis du mois à 18h30, donc on vous appelle, elle est ouverte au nom d'adhérents, on vous appelle à venir. Et pour Gaza, puisqu'on en parlait, et puisque bon, vous nous avez posé la question, et d'abord la première question, donc c'est très bien. On appelle un rassemblement, donc samedi 28 mars, dans une semaine, contre le blocus de Gaza. Donc ça sera un rassemblement qui sera place de la République.
D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup Dominique et Harlem, même si tu n'as pas participé, tu es bien présente. Et merci beaucoup d'être venu à Radio Canut ce soir et pour toutes ces informations. C'était très complet et très intéressant. Je pense que pour beaucoup d'auditeurs, ils en savent plus pour ce qu'il en est de la Palestine et des Palestiniens aujourd'hui. On va donc continuer le journal. Je vais d'ailleurs faire le déroulé de la suite du journal parce que j'ai oublié de le faire en début, c'est pas grave. Hein. Donc du coup, maintenant on va parler du Brésil tout d'abord et de la manifestation anticorruption qui s'est déroulée mercredi dernier et justement des soupçons qu'il y a concernant une possible instrumentalisation de cette mobilisation. Ensuite, ce sera Raphaël qui va nous parler du Front National et qui va nous révéler le vrai visage de ce parti qui ne fait que se cacher. On va révéler ce qu'il fait vraiment à travers trois actualités récentes. Nous parlerons ensuite du projet de Technopole de Christian Estrosi, le député maire de Nice. Un projet qui va sûrement causer la destruction de nombreuses terres fertiles. On parlera ensuite du procès des deux policiers accusés d'avoir laissé mourir deux adolescents dans la banlieue parisienne. De la manifestation anti-banque centrale européenne qui a eu lieu à Francfort en Allemagne, mercredi dernier là aussi. Et on finira par un petit agenda alternatif pour que vous sachiez quoi faire ce week-end. Voilà, mais on commence tout de suite avec, avec le Brésil et la manifestation anticorruption qui ne s'est pas déroulée mercredi, excusez-moi, mais dimanche dernier. Je suis désolé. Cette manifestation a réuni entre 300 et 1,5 million de personnes au Brésil. Les manifestants étaient réunis dans plusieurs grandes villes du pays, mais surtout à Sao Paulo, la capitale économique. Ils criaient des slogans tels que « Fara Dilma », donc « Dilma dehors » en français, pour réclamer la destitution de l'actuelle présidente du pays, Dilma Rousseff. Donc, ce mouvement de contestation fait suite à l'affaire de corruption de l'entreprise pétrolière Petrobras. Cette entreprise mixte, détenue à 50% par l'État et à 50% par des actionnaires privés, a blanchi d'énormes sommes d'argent, dont les bénéficiaires sont des grands groupes du BTP, donc les patrons de ces grands groupes plutôt, ainsi que des hommes politiques issus de la coalition au pouvoir, dont des membres du Parti Travailleur, le parti de Dilma Rousseff, la présidente. Donc face à cette affaire de corruption, il nous paraît donc normal que la population n'ait plus confiance en son gouvernement et demande sa démission. Mais, il se trouve que les causes de l'émergence de ce mouvement social sont plus compliquées que ça. En effet, selon des médias indépendants du Brésil, la manifestation a été en partie orchestrée pour finalement inciter à la privatisation complète du groupe pétrolier Petrobras. En effet, les principaux animateurs de la manifestation font partie finalement de l'organisation Students for Liberty, donc d'une filiale brésilienne de cette organisation Students for Liberty, une organisation qui est financée par deux multimilliardaires américains, qui sont les frères Charles et David Koch, deux frères qui figurent d'ailleurs à la sixième place des plus grosses fortunes mondiales et qui sont à la tête d'un empire de grandes multinationales pétrolières, agricoles ou encore gazières. Et pour couronner le tout, il serait également très impliqué dans le soutien au lobby climato-sceptique. Donc c'est un lobby qui nie tout ce qui est réalité du réchauffement climatique, pollution, etc. Mais alors, quel lien faire avec la manifestation de dimanche au Brésil et ces deux hommes, cette association? Quel intérêt finalement ces deux milliardaires ont-ils d'essayer d'orchestrer un mouvement social au Brésil? Eh bien, selon les syndicats de la gauche brésilienne, tel que le principal syndicat pétrolier du pays, ce mouvement pourrait fortement fragiliser le statut mixte de Petrobras et donc pousser à la privatisation totale de l'entreprise. Et cela se ferait bien sûr au profit des riches actionnaires, tels que les frères Koch par exemple, qui ont forcément d'une manière ou d'une autre des intérêts financiers dans l'entreprise. Et il faut aussi dire que ces riches hommes d'affaires ont le vent dans le dos pour faire tourner la situation politique et économique en leur faveur au Brésil, car ils peuvent surfer sur la vague d'impopularité de la présidente Dilma Rousseff, qui déferle notamment depuis que le gouvernement a voté de nouvelles mesures d'austérité. Des mesures qui toucheront principalement les classes moyennes et populaires du pays, donc les masses. Et il y a aussi les grands groupes de presse qui jouent un rôle, on dirait. Ils ont exagéré l'ampleur de la manifestation de dimanche. Comme j'ai dit tout à l'heure, les estimations concernant les effectifs de la manifestation, ils varient de 300 000 à 1,5 million de personnes. Alors on voit bien une fourchette énorme. Alors il se trouve que finalement les grands médias traditionnels donnent des faux chiffres, tels que la chaîne d'information Globo, qui a diffusé toute la journée de dimanche des faux chiffres ainsi que des flashs infos sur le déroulement de la manifestation. Tandis que cette même chaîne avait presque occulté la mobilisation du 13 mars, donc deux jours avant. Et cette mobilisation est-elle pour des causes inverses? C'était 175 000 manifestants qui avaient manifesté pour que le géant pétrolier reste dans le giron public et que la présidente Dilma Rousseff ne soit pas destituée de ses fonctions. Car les opposants à Dilma Rousseff, ce serait une politique encore peut-être plus d'austérité, encore plus sécuritaire que celle de la présidente actuelle. Alors avec toutes ces informations, on peut alors facilement comprendre la stratégie des grandes fortunes, notamment américaines, qui pour avoir la main mise sur le Brésil, cherchent à diviser la population, et ça dans un contexte de crise économique et politique au Brésil. Et il y a de quoi s'inquiéter, notamment quand on apprend que parmi les slogans criés dimanche des manifestants, certains louaient la mise en place d'un régime militaire au Brésil à la place de Dilma Rousseff. Voilà, on va maintenant passer à la suite. C'est Raphaël qui va nous parler du Front National. C'est notre petite chronique Front National habituelle.
Voilà.
C'est ça.
Alors, le parti du Front National, du coup, nous a encore montré, par ses pratiques douteuses récentes, son vrai visage. Simplement, un parti réactionnaire, raciste et malhonnête, comme nous montrent trois événements récents. Alors, par exemple, il y a eu Robert Ménard, c'est le maire de Béziers, élu l'an dernier avec le soutien du FN, qui vient de débaptiser une rue de la ville pour lui donner le nom d'un officier partisan de l'Algérie française, qui a participé au putsch des généraux, le commandant Élix Desnois. Le maire lui-même, pied noir et fier de l'être, comme il n'a pas honte de l'affirmer, entend rendre hommage à un héros. Pas mal emblématique pour un parti dont l'un des leaders utilisait la torture pendant l'Algérie. Et le pire, c'est que cette rue portait depuis 36 ans la date du cessez-le-feu qui a mis justement fin à la guerre d'Algérie. Là, si on ne peut plus parler de parti réactionnaire concernant le FN, il y a vraiment un problème. Et d'ailleurs, le discours de Robert Ménard à ce propos s'est fini sous les acclamations de ses partisans qui scandaient « Algérie française » pour ensuite chanter le chant des Africains, chant militaire repris, c'était un chant militaire repris pendant la guerre d'Algérie par les partisans de l'Algérie française. Au top, quoi. Et pour continuer, dans ces exemples tout aussi révélateurs les uns que les autres, on peut parler des 10 plaintes qui viennent d'être déposées contre 10 candidats FN à différentes élections. Ces derniers sont accusés d'avoir tenu des propos racistes et antisémites. Plainte qui s'avère assez symbolique à moins de 2 semaines des élections départementales. Enfin, c'est ce que certains espèrent. Elles sont à l'initiative de SOS Racisme et de l'Union des étudiants juifs de France qui, sur une centaine de déclarations récoltées sur un an, ont choisi les 10 cas les plus juridiquement solides contre les candidats FN.
Et quels sont-ils ?
Je vais y venir très bientôt. C'était juste pour le petit détail que j'aime bien dire, qu'ils ne pouvaient pas utiliser plus de déclarations, des déclarations plus anciennes par rapport à un délai de prescription, ça s'appelle, en matière de droit de la presse. Sinon, à mon avis, ils en auraient eu toute une liasse. Par exemple, en tout cas, parmi tous ces propos recueillis, il y a celui de Thierry Kern. C'est un candidat à Brunstatt qui a dit « Ces musulmans de merde, il faut qu'on s'en débarrasse ».
Ah, sympa.
C'est sympa. C'est cool. Et il y a un autre aussi, Jérémy Aycard, candidat à Limoges. Lui, il a dit « Les banques dirigent le monde, les juifs dirigent les banques, les juifs ont le permis d'assassiner ». Génial.
Ouais.
Alors, la plupart de leurs propos portent justement sur les musulmans et les juifs. Et ils n'ont fait qu'augmenter depuis les attentats aussi. C'est un bon moyen d'instrumentaliser tout ça. Et une fois de plus, le FN montre en recrutant ses membres qu'il est vraiment un parti raciste qui attise la haine. Mais c'est aussi un parti malhonnête, comme le prouve une affaire de fraude fiscale en cours. Alors cette affaire, c'est le Parlement européen qui accuse des assistants parlementaires FN de ne jamais travailler sur le fonds européen et de simplement profiter des salaires issus du budget européen, pour peut-être même s'en servir au financement illicite du parti.
D'accord, ok.
Alors...
Non, c'était vraiment, vraiment intéressant, même si ça fait toujours aussi peur de voir que le Front National multiplie les stratégies pour monter.
Ce qui était assez marrant aussi, c'était que pour se défendre par rapport à cette fraude fiscale, ils ont essayé justement d'accuser la personne qui les accusait, donc le directeur du Parlement européen, de fraude fiscale aussi, en retour.
Ouais, c'est facile, comme ça, on renvoie la balle.
Oui, voilà.
C'est la politique un petit peu.
C'est une belle stratégie.
Comme ça. On va maintenant parler du projet de Christian Estrosi sur Nice et ses alentours, là, sa grosse technopole. Ça donne quoi, Oriane ?
Près de Nice, on va assister à un immense gaspillage de terres fertiles qui se prépare. Donc Christian Estrosi, qui, je rappelle, est le député maire UMP de Nice, il a pour volonté de créer une mini Silicon Valley dans la plaine du Var. Donc en fait, ce projet est déjà controversé car il se trouve que cette plaine entre mer et montagne est considérée comme l'ancien potager de la Côte d'Azur. Donc en fait, les ONG s'opposant au projet nous ont informé que ces terres sont les plus propices pour le maraîchage, compte tenu de leur impressionnante fertilité. Donc par exemple, des agriculteurs du coin s'étonnent de pouvoir faire 4 récoltes par an. Donc le député maire de Nice propose de son côté un projet dit écologique. Dans les faits, il souhaite faire émerger un quartier d'affaires international et une technopole d'entreprise, comme tu l'as dit, Pierrot. Mais le projet aurait soi-disant une dimension écologique, car les entreprises seraient justement des start-up et PME, qui est petite et moyenne entreprise, dans les secteurs des nouvelles technologies et énergie propre. Donc de plus, le maire de Nice prévoit l'aménagement d'une plateforme agroalimentaire et horticole, ainsi que des éco-quartiers qui fleuriront le long du Var pour faire de la vallée le symbole de l'éco-exemplarité, comme il l'appelle.
Waouh.
Oh. Mais alors, en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ce projet ? C'est aussi l'installation de bureaux, l'agrandissement des zones commerciales déjà existantes. Et donc, en tout, 450 hectares seront aménagés ou mutés, ce qui veut dire concrètement qu'ils seront en fait bétonnés. Donc, on voit bien qu'avec ce projet, les dirigeants, ils voient la possibilité d'étendre la ville de Nice, pardon, et son rayonnement économique. Mais voilà, c'est au prix de la destruction de zones agricoles classées Natura 2000 et les dernières terres agricoles de la Côte d'Azur que de la Côte d'Azur, que les militants écologiques cherchent eux à sauver. Donc voilà, affaire à suivre.
Ouais, on soutient les écolos. Et on continue avec les tristes nouvelles, et on les dénonce parce qu'on est une radio rebelle. Place à Raphaël.
Plus rebelle des radios. Oui, alors là, maintenant, je vais parler du tribunal correctionnel de Rennes, qui est revenu hier sur l'événement de 2005. Un événement qui avait conduit à la mort de deux adolescents de 15 et 17 ans, Zied et Bouna. Ces deux policiers, deux policiers ont été inculpés, pour non-assistance à personne en danger. Cette semaine se tenait le troisième jour du coup du procès, où les enregistrements radio de la police ont été diffusés. Et la question était de savoir, à ce procès, pourquoi les deux policiers en question n'ont pas empêché les deux jeunes adolescents qu'ils poursuivaient d'entrer dans un transformateur électrique EDF. L'accident s'est déroulé à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et c'était le 27 octobre 2005. Donc ce jour-là, un homme a aperçu des personnes sur un chantier, et jugeant cette situation louche, il a directement appelé la police, qui n'a pas tardé à venir en meute avec la BAC. Ils étaient environ une quinzaine, pour à peu près même pas une dizaine de jeunes. Et ces jeunes en question n'étaient en réalité que des ados qui revenaient d'un match de foot, en passant par ce chantier tranquillement comme à leurs habitudes. Et en voyant tous ces flics arriver, bah bien sûr ils ont pris peur des représailles qui sont fréquentes dans ces quartiers, et sont donc partis en courant. Donc 6 des ados ont été rattrapés pour être emmenés au commissariat avant d'être vite relâchés, puisqu'en réalité ils n'avaient strictement rien fait. Et pendant ce temps-là, 3 autres jeunes continuaient de se faire courser par les policiers et se sont retrouvés dans un cimetière qui donnait derrière un grillage sur une centrale d'EDF. Ils l'ont enjambé pour fuir les policiers, qui eux voyaient distinctement la scène arriver. Et c'est à partir de là que l'accusation se base justement, puisque les policiers ont vu les 3 ados enjamber ce grillage et n'ont rien dit. Alors pourquoi ne les ont-ils pas prévenus du danger ? C'est la grande question justement en ce moment, qui va certainement amener à la solution de ce procès. Tout le procès se joue dans les enregistrements radio en ce moment et dans la réponse des accusés. Et parmi les enregistrements, on peut entendre un des policiers dire « Je pense qu'ils sont en train de s'introduire sur le site EDF, faudrait ramener du monde qu'on puisse cerner le quartier. Ils vont bien ressortir. » Pour ensuite ajouter « En même temps, s'ils rentrent sur le site, je donne pas cher de leur peau. » Alors aussi, lorsqu'on pose la question sur la raison de ne pas avoir prévenu, il répond « Je ne connais pas beaucoup de jeunes du 93 qui s'arrêtent quand on leur dit stop. C'est la police, quoi. » Mais tout ça étant donné que le policier, à la place de simplement soi-disant prévenir les jeunes, il aurait pu aussi appeler EDF directement, qui aurait fait quelque chose. Mais c'est pas ce qu'il a fait, et sa coéquipière non plus. Sa coéquipière qui était une stagiaire aussi, je le précise. Et alors les gardiens de la paix ont simplement jeté un coup d'œil à l'intérieur de l'usine, en se plaçant en hauteur, au-dessus des murs du cimetière. Et puisqu'apparemment ils n'ont rien vu, ces derniers sont tout simplement repartis, jugeant que les jeunes étaient déjà sortis de l'enceinte du transformateur EDF. En fait, pas vraiment. Ces policiers ont donc fait preuve d'un gros laxisme par rapport à la situation, manquant cruellement d'initiatives rationnelles et sécuritaires. Et quelle est alors leur justification là-dedans ? Les deux jeunes n'étaient pas des enfants, mais déjà des adolescents censés être responsables. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne raison pour ne pas prêter assistance à personne en danger ?
Moi, je pense pas personnellement.
Je ne pense pas non plus.
Et j'espère que ils seront jugés assez sévèrement, que la justice serve à quelque chose, un petit peu. On va parler maintenant de la manifestation anti-Banque Centrale Européenne qui s'est déroulée ce dimanche en Allemagne à Francfort. Une manifestation qui a réuni entre 3... Non, pardon, je me suis trompé dans les feuilles. J'arrive. Voilà. Donc, il a réuni plusieurs milliers de personnes donc à Francfort en Allemagne mercredi. Et non dimanche, pardon. Mercredi, en Allemagne, à Francfort, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont manifesté pour contester l'inauguration du nouveau siège de la Banque Centrale Européenne, ainsi que la politique d'austérité promue par les grandes institutions de l'Union Européenne depuis quelques années. Bien évidemment. Donc des affrontements contre la police ont eu lieu. 21 manifestants et 14 policiers ont été blessés. 16 autres contestataires ont, eux, été arrêtés. Les manifestants voulaient montrer mercredi qu'ils trouvaient aberrant l'inauguration du nouveau siège de la Banque Centrale Européenne à Francfort, dont le chantier a coûté plus de 1,2 milliard d'euros. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est une grande tour, en fait, voilà, avec plein de fenêtres à Francfort qui va se tenir. En fait, c'est ça. Et les travaux de construction ont commencé en 2008. Et depuis novembre 2014, les locaux accueillent les équipes de la Banque Centrale. Et les acteurs du mouvement de mobilisation, le mouvement dénommé Blocupy 2015, voulaient surtout se rassembler pour faire passer un message anti-austérité, plus que seulement contester cette inauguration. En effet, ils sont contre les pratiques de la Banque Centrale Européenne, qui prête à des taux proches de zéro aux grandes banques privées. Banques privées qui, elles, prêtent ensuite aux États à des taux beaucoup plus élevés. Alors, par exemple, en Grèce, l'État emprunte actuellement à ses banques nationales avec un taux de 11%, alors que, voilà, ces banques empruntent à 0% à la BCE. Donc, la BCE incite les banques à faire du profit et les États à subir les fluctuations négatives du marché financier pour mieux tomber dans la spirale interminable de l'endettement. On estime que la politique de la Banque Centrale Européenne, excusez-moi, coûte aux finances des États européens plus de 350 milliards d'euros par an d'intérêts de la dette. Et pendant ce temps-là, on estime que depuis 2007, la banque a prêté plus de 1600 milliards d'euros aux banques privées à des taux d'intérêt égal ou quasiment égal à zéro. Et il y a également d'autres raisons de protester contre l'institution européenne. Par exemple, quand on sait que Mario Draghi, le président actuel de la Banque Centrale, est l'ancien président de Goldman Sachs, donc la célèbre banque américaine, qui a notamment aidé l'État grec à maquiller les comptes publics du pays. Je rappelle que la Grèce est un État extrêmement corrompu, enfin surtout le parti qu'il y a eu avant Syriza. Voilà, c'était un petit peu le point sur la manifestation en Allemagne. Et bien, je crois qu'on arrive déjà à la fin de ce journal, il me semble. Donc du coup, Florian, c'est toi qui va finir avec un petit agenda du week-end.
Ouais, avec les infos du week-end. Vas-y. Alors, ce soir a lieu le 23e Carnaval humanitaire à Lyon, qui chaque année se déroule sur le campus de la Doua à Lyon. Ce festival est axé autour du carnaval des écoles de ville urbaine et regroupe beaucoup de concerts, du cirque, du théâtre et de l'art de rue et divers spectacles pour petits et grands. Ainsi qu'un forum participatif sur le thème de l'habitat alternatif. Au programme, donc, une atmosphère festive et conviviale, il y aura de la bonne humeur. En plus, l'événement permettra de récolter des fonds pour débloquer des projets humanitaires tels que Eau pour tous, un projet visant à faciliter l'accessibilité à l'eau potable d'un village du Burkina Faso. Alors, cette 23e édition se déroulera donc du 20 mars au 28 mars sur le campus de la Doua, sous le thème des cabanes enchantées. Je vous conseille d'y faire un tour. Alors, il y a aussi également ce soir, proposé par le syndicat de la Confédération du Travail de l'Ain, une soirée de soutien à Radio Canu, au centre social d'Hauteville, à partir de 18h30 jusqu'à 23h30. Cette soirée aura lieu pour Radio Canu, pour qu'elle continue d'émettre dans le Bugueil et partout ailleurs, bien entendu. Donc, pour tous les intéressés, rendez-vous au centre social d'Hauteville pour une soirée de soutien à la plus rebelle des radios. Il y aura lieu des projections, des débats, ainsi qu'une buvette et un repas pour les gourmands. Un concert acoustique sera également proposé par DIM. Et pour que tout le monde puisse participer à cette soirée, l'entrée est bien évidemment à prix libre. Et tous les bénéfices encore reviendront directement à nous, la radio, pour que l'on puisse se payer des petites vacances aux Bahamas. Non, mais je rigole. Donc du coup, la radio a toujours et a surtout plus que jamais besoin de vous et de vos dons pour pouvoir s'acheter un nouveau local.